Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Alors c'est sport, figurez-vous Philippe David qu'on a perdu Rémi André. Donc je vais me permettre de faire la météo à sa place, bien évidemment.
Allez-y.
Écoutez, c'est assez simple, puisque demain, une perturbation va traverser le pays, donc il y aura de la pluie du nord au sud.
Oh,
et dimanche, c'est exactement le même scénario, avec des températures moyennes qui devraient aller de 13 à 15 degrés au nord, et on ira jusqu'à 21 degrés au sud. Voilà ce que je pouvais vous dire pour une météo, bon, un peu résumée.
Vous pouvez le faire avec l'accent de Rémi André.
Non, je ne veux pas m'y risquer quand même.
Oh, si,
je peux le faire avec l'accent de Philippe Bilver, mais ça va être difficile. Hein, sur
qu'est-ce
la longueur.
Que vous faites de l'anticyclone?
Ah ben, l'anticyclone n'est pas là. Il n'est pas basé sur la bonne... hein, voilà. Merci.
Oh, c'est fantastique.
On l'embrasse s'il nous écoute.
Philippe. Ouais. On va parler, ben là, pas
reprenez
des absences, mais des absents pour cause de blessures des footballeurs. Le calendrier est-il trop chargé? Ça va être notre premier débat foot jusqu'à 19h30 et après on parlera rugby. Et oui, le 15 de France va-t-il battre le 15 de Galles? Ce sera dimanche à partir de 9h sur Sud Radio. On va commencer donc comme tous les vendredis par le football. Vous avez vu le coup de gueule de Thomas Tuchel dans les colonnes de l'équipe hier, qui dit pêle-mêle que ça tue les joueurs. Il a poussé une énorme gueulante et il est même allé jusqu'à dire qu'il y avait trop de compétition dans le football. Faut dire que le manager du PSG n'est pas gâté. Mbappé et Cavani sont plus là depuis un mois et demi. Allez, s'il y a eu deux entrées de Mbappé, tranquillou, on va dire ça comme ça, après des blessures contre Toulouse. Mbappé sur la feuille de match pour jouer à Nice ce soir. Il a eu Idrissa Gueye blessé pour aller jouer un match Brésil-Sénégal. Vous savez où il jouait le match Brésil-Sénégal, les amis?
Singapour.
Oui, Singapour. C'est hyper pratique d'aller jouer à Singapour pour un Brésil-Sénégal.
Au
pire, tu veux faire ça à peu près à mi-chemin entre les deux, tu vas à Madère, d'accord? Il y a un club de foot professionnel portugais, mais aller jouer à Singapour. Neymar s'est blessé lui aussi. Ouais. Alors, accrochez-vous bien, il est allé, il a fait France-Brésil en avion, 10-11 heures d'avion pour retrouver ses coéquipiers. Et ensuite, Brésil-Singapour, ça doit être une bonne quinzaine d'heures d'avion pour jouer, parce qu'il s'est blessé. 8 minutes. Inutile de dire que 8 minutes, c'est même pas le temps pour faire le décollage d'un des deux vols. D'où la question des vraies voix sport ce soir. La première question, blessure des footballeurs. Le calendrier est-il trop chargé? Eh bien, pour le moment, vous trouvez que non, à 59%. Moi, je trouve que les auditeurs sont un peu crus. Alors, avec nous, Emmanuel Galasso. Salut, Emmanuel.
Salut, Philippe. Salut à tous.
Avec nous, bah, allez, restez avec nous parce qu'on ne le sait pas. Elle est bouchère, mais elle est fan de foot. Elle aime beaucoup le rugby.
Surtout le PSG.
Et supportrice du PSG.
Pardon, bah, excusez-moi, alors, c'est le Sud, mais...
Mais on va en parler parce que c'est quand même eux qui ont l'hécatombe. Jim Gollard, qui va parler surtout au rugby avec nous, membre du comité directeur du Stade français. Salut, Jim.
Bonsoir à tous.
Je suis aussi fan.
Oui, du Stade français. Ouais, elle aime les deux. Il n'y a qu'une rue à traverser entre le Parc des Princes et Jean Bouin. Alors justement, on va commencer, comme tu n'as pas encore parlé, mon cher Emmanuel, est-ce que Tuchel a eu raison? Moi j'ai lu son coup de gueule en entier, je dois dire que je suis d'accord avec lui.
Je suis aussi d'accord avec Tuchel, bon déjà il n'y a plus la Coupe de la Ligue, ça peut le soulager.
La Coupe de la Ligue, excuse-moi, si tu te faisais sortir au premier tour,
non,
tu
n'avais
pas
c'est
beaucoup joué,
non,
c'était 4 matchs, il t'arrivait en finale. Alors
oui, les calendriers sont trop chargés, mais c'est vrai que là, ce match, c'est un bon exemple, du Brésil contre le Nigeria à Singapour, où Neymar
s'est blessé, un mois d'absence.
En fait, la raison elle est simple, c'est que c'est la fédération brésilienne pour des questions financières qui va jouer à Singapour, qui doit faire jouer Neymar parce que Singapour fait venir le Brésil pour que Neymar joue, pour des questions économiques. Donc Neymar doit jouer à partir du moment où le contrat est signé. Et oui, mais c'est catastrophique. On ne pense pas à l'intégrité des joueurs et les intérêts sont autres que footballistiques sur un match amical sans intérêt.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de matchs?
Moi, je trouve que ça fait déjà un certain temps qu'il y a trop de matchs. Et pour parler de Neymar, si on regardait par rapport à sa rétribution à la minute...
Ah oui,
excusez-moi.
Et sur son coude pour la sécurité sociale, c'est pas mal non plus.
Excusez-moi, mais là, ça va beaucoup trop loin, en fait. Hein.
Ah, c'est complètement fou. On a notre ostéopathe du sport, Romain Hamelot, qui nous a rejoint. Salut Romain.
Salut Philippe.
Ouais, est-ce que tu trouves pas, alors après on va parler de manière plus technique avec toi sur les blessures, parce que c'est que des blessures musculaires, c'est pas le joueur qui prend un gros tacle et qui se fait fracturer la jambe. Est-ce qu'il n'y a pas trop de matchs aujourd'hui? Et puis surtout aller les jouer à Singapour par exemple pour un Brésil-Nigeria ou un Brésil-Sénégal.
Alors d'autant plus avec les matchs internationaux, etc., où il y a un gros décalage horaire, où il y a donc évidemment la fatigue qui rentre en jeu. Même en dehors des matchs internationaux, il y a beaucoup trop de matchs, ça c'est évident. C'est les lois commerciales et les lois de droits de télévision qui sont difficiles à refuser. Et je pense que c'est la raison principale, en tout cas.
Justement, oui, vas-y,
ceci
Véronique.
Dit, pour parler de Neymar, sans être méchante, hein, c'est quand même quelqu'un qui fait aussi beaucoup la fête.
Donc, oui, c'est sûr qu'il n'a pas la meilleure hygiène de vie
part, on le paye aussi quelque connaisse. Part.
Quand par rapport à Ronaldinho, quand même, il a une hygiène de vie pas pire, et Ronaldinho jouait plus souvent.
Ronaldinho a pris de l'avance sur la fête.
Justement, une question, je vais jouer les anciens combattants. Dans mon époque, quand j'ai commencé à regarder du foot, dans les années 70, la Coupe d'Europe des clubs champions, ça s'appelait pas la Ligue des champions, il y avait deux matchs, septembre-octobre, enfin mi-septembre, début octobre, pour les 16e de finale, ou les 32e, il y avait ensuite deux matchs, et après on se retrouvait au mois de mars, oui, mi-mars, pour le match aller-retour des quarts de finale. En avril, il y avait l'aller-retour des demi-finales, et il y avait la finale en mai. Quand tu vois aujourd'hui la Ligue des champions, oui, t'as déjà 6 matchs de poule, et puis ensuite t'as 8e, quart, demi-finale, 8 et 6, 14, ça fait 15 matchs, et sur 15 matchs, à part quelques matchs de poule, pratiquement que des matchs à très haute intensité. Est-ce que ça pose pas problème?
Ça pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur qui joue dans un très grand club, qui joue avec sa sélection, il joue 75 matchs par an, à peu près. Donc, en fait, je pense qu'on arrive à un moment où les enjeux économiques sont de plus en plus importants, parce qu'il y a de plus en plus d'argent. Mais le corps humain n'évolue pas à la vitesse de l'influence de l'économie dans le football.
Ou alors, c'est qu'il prend des choses que la morale réprouve.
En principe, non.
Oui, en principe.
En principe, non.
Oui, mais sinon, pour tenir le coup, ça peut arriver. Ça peut inciter...
Mais les salaires sont tellement astronomiques que finalement, ils sont prêts à tout, quelque part.
Mais est-ce que c'est ça la cause des blessures? Moi, je ne suis pas sûr, parce qu'on parlait des blessures
non,
musculaires.
Non, c'est l'intensité, c'est clairement l'intensité.
C'est l'intensité, mais il y a des blessures. Les blessures, par exemple, Neymar, quand il s'était blessé au métatarse, c'est quelque chose d'osseux, ce n'est pas dû à l'hygiène de vie. Mais par contre, plus on joue de match, plus on risque de se blesser.
Alors, on est quand même plus fatigué.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est pas une blessure de fatigue.
Justement, notre ostéopathe va réagir. Romain, est-ce que quand t'es plus fatigué, tu risques bêtise, plus une blessure osseuse?
Si tu consultais,
tu remettrais Neymar en selle en 24 heures.
Impossible.
Ouais, 12 heures même. Non, et en effet, alors c'est une bêtise, mais il n'y a pas de mauvaise réflexion. C'est le métatarse, je ne sais plus ce que c'était.
Métatarse, je crois, oui.
C'est souvent des fractures de fatigue. Donc, en effet, c'est quand même le nombre de matchs. C'est très révélateur, les blessures au pied, les blessures de métatarse, d'une fracture de fatigue, donc d'un trop grand nombre de matchs, ou alors d'une mauvaise hygiène de vie. Mmh. On en a déjà parlé. Neymar n'est vraiment pas l'exemple à suivre. Et je pense qu'il est un petit peu fragile aussi, parce que Messi n'a pas une meilleure hygiène de vie que lui, mais oui. Peut-être qu'au niveau... Voilà, après, je ne le connais pas intimement, je vais pas fabuler, mais je ne suis pas sûr que Messi boive de l'alcool, à mon avis, Neymar en boit un petit peu, oui. Mais il est évident, au-delà du nombre de matchs, que l'hygiène de vie entre en jeu pour Neymar en particulier. Pour Cavani, non, ça va être un peu plus le nombre de matchs et l'âge.
Et l'âge, oui. Mais c'est vrai, à 33 ans, tu commences à être... oui, à part que...
Mais justement, Neymar, on se demande jusqu'à quand il va tenir, parce qu'à ce rythme-là, effectivement, il ne joue pas beaucoup, il coûte assez cher pour le nombre de minutes jouées, même si elles sont efficaces.
Le paradoxe, il est là, c'est qu'il a joué 48 matchs sur 123 possibles avec le PSG.
Ça fait un tiers.
Pourtant, sur le ratio nombre de matchs joués et buts ou passes décisives, c'est le meilleur de l'histoire du PSG. Donc, c'est la contradiction Neymar, c'est qu'il joue.
Il est mieux que Zlatan.
Il est mieux que Zlatan sur le ratio nombre de matchs joués.
D'où la bonne raison pour aller consulter chez Romain. Parce que là, s'il était là à temps complet, ils auraient déjà deux Ligues des Champions en compteur.
Non, il faut déjà dormir.
Non, mais pour prendre sa défense à Neymar, s'il veut continuer comme ça sur ce rythme, il faut qu'à un moment donné, il se préserve, qu'il se repose, qu'il soit un petit peu plus sérieux dans sa préparation, parce que à ce rythme-là, il va pas aller jusqu'à 30 ans, et c'est dommage, parce que même s'il est largement au-dessus du lot, ce serait dommage qu'il s'arrête à 28 ans ou à 30 ans à cause des blessures.
Mais alors, je voulais te poser une question vraiment de Béotien, tu vas comprendre. Alors, on se doute que Gay ou Neymar, etc., les équipes nationales professionnelles ne voyagent pas en classe économique pour faire du Sao Paulo, du Rio de Janeiro, Singapour, ou du Paris, Singapour. Mais est-ce que ce type de voyage, où tu restes quand même immobile un certain nombre de temps, parce que tu es enfermé à Paris-Singapour, c'est à peu près 11 heures de vol de mémoire, est-ce que c'est mauvais pour l'organisme, plus le fait que tu sois en altitude? Et je crois que dans un avion, avec les pressurisations, tu es à peu près à 2500 mètres d'altitude. Est-ce que c'est mauvais pour les muscles, les articulations, et est-ce que ça peut causer des blessures?
Sur les longs courriers, compte tenu de leur qualité de voyage, qui sont en général très bonnes,
ah oui.
et compte tenu de leur habitude, c'est un peu, on peut prendre l'exemple par exemple des pilotes de ligne qui sont habitués, qui sont complètement comment dire, adaptés au décalage horaire et à ce genre de choses. Ils sont habitués bien plus que nous. Donc on va dire que c'est pas tant ça, c'est pas tant les longs courriers et c'est pas tant les longs trajets en avion qui vont faire qu'ils vont plus se blesser. Ça va être plus la gestion de la fatigue en arrivant, la gestion de et puis il y en a qui sont plus ou moins adaptés ou leur corps est plus ou moins adapté à la au décalage horaire. Mais je suis pas sûr que ce soit ça qui augmente le qui augmente les blessures.
Mais je donne la parole à Emmanuel. Je me rappelle un voyage complètement délirant des Bleus de Zidane. En 2001, de mémoire, après avoir été champion du monde, champion d'Europe, ils avaient été faire un match en Australie avec escale à La Réunion. 25 ou 26 heures de vol, l'aller et autant le retour. Ils avaient fait 6 millions de modifications dans le Boeing 747 pour que les types aient suffisamment de sièges, d'espace, etc. Et je me rappelle que Trezeguet s'était fait, mais découpé à côté du banc de touche par un poète australien et qu'on avait perdu Trezeguet, enfin la Juventus et l'équipe de France pour un certain temps et pour un match vraiment en bois qui était à chier. Le stade était vide et ça avait fait un partout. Tu voulais réagir, Emmanuel ?
Oui, alors. Pour le coup, ils prennent souvent l'avion, voilà, parce que c'est
obligé. Ouais, mais sur des vols courts. Mais sur des vols courts. Tu fais Paris-Marseille, voilà. Ou Paris-Bordeaux, ou Paris-Toulouse, t'as une heure de vol.
C'est ce que j'allais dire, c'est dans le pire des cas, ils restent en Europe. Enfin, les footballeurs, ces joueurs-là qui jouent dans le championnat européen,
au pire, tu vas jouer en Russie, t'as trois heures de vol.
Voilà. Donc là, passer de trois heures sur le maximum, on va dire, sur en France-Russie ou en Espagne-Russie à 11 heures de vol, c'est quand même pas, je pense qu'ils font deux ou trois fois par an, mais c'est pas des pilotes de ligne, pour le coup, si je peux me permettre. Peut-être que leur organisme n'est pas autant rodé.
Par contre, je t'arrête, certains font le carnaval de Rio, et là, c'est 10-11 heures de vol aussi.
Ah, ça, pour l'avion, il est rodé. Ça, on peut pas lui enlever.
Romain ?
Non, mais c'est vrai que sur certains longs courriers, ça va être plus la fatigue, ouais. plus que l'altitude, si vous voulez. Non, c'est sûr que les 2-3 heures d'avion qu'ils font régulièrement, il n'y a pas de souci. C'est plus la gestion de la fatigue, plus que le fait de rester assis, et plus que le fait que ce soit en avion. Ce serait 10 heures de quart, ce serait la même chose, quoi.
Ah oui.
Ce serait le même ratio.
Non, je pense que c'est quand même plus sympa 10 heures d'avion que 10 heures de quart, soit dit en passant.
Et il y a l'alimentation aussi, oui. Qui est à prendre en ligne de compte.
À Marseille, ils doivent avoir des repas adaptés, même dans les vols.
Normalement,
oui,
normalement
oui.
Ils ont leur cuisinier. Oui,
mais
oui.
Qui partent en cacahuète. Dans leur alimentation, et je pense que ça a des répercussions aussi sur le match.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h15. Désolé Romain, on te reprend tout de suite, mais on doit faire une petite pause. Vous êtes désormais 42% à penser, c'était 41% tout à l'heure, que le calendrier est trop chargé. Seulement, vous pensez que les footballeurs bossent pas assez. Je pense que vous êtes vraiment un peu dur. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et on continue avec le foot, et vous êtes vraiment, pour les cadences infernales, pour nos amis footballeurs, vous êtes toujours 58% à dire que non, il n'y a pas trop de matchs dans la saison de nos footballeurs bien-aimés. On en débat ce soir avec Véronique Lenglet, la Bouchère, mais fan de foot et PSG. Justement, on va parler de la Ligue des Champions, Emmanuel Galasso et Romain Hamelot, notre ostéopathe du sport, l'homme qui pourrait transformer Neymar en outil indestructible, même avec un tacle par derrière, les deux pieds en avant décollés du sol.
Avec de l'hypnose alors.
Ouais, Romain.
Oui. Non, je ris des descriptions.
Alors justement, on va parler de la Ligue des Champions. Bon, ce soir, il y a un Nice-PSG, mais là, le retour de la Ligue des Champions. Et on comprend mieux pourquoi Tuchel n'est pas content, parce que, aller diminuer à Nice, ça peut le faire quand on s'appelle Paris. Alors ça va, là, il joue Bruges, il joue pas le Real, mais il va quand même leur manquer Gueye, absent 10 jours, qui s'est blessé justement contre le Brésil à Singapour. Ils vont avoir Mbappé qui est de retour, mais qui, on va dire, allez, gentiment sur une jambe, Cavani sur une jambe, Neymar absent un mois, donc sera pas là, Choupo-Moting sera pas là. Bon, on sait déjà que, comme c'est les mêmes absents que pour jouer contre les Galatasaray et le Real, on connaît déjà le trident d'attaque. Sauf que Choupo-Moting sera pas là, ça va être Sarabia, Di Maria, Icardi, c'est pas ça, Emmanuel ?
Ça va être ça.
Bah là, il a pas le choix, alors au moins c'est réglé.
Voilà, là au moins il y aura pas de polémique sur la composition, il va faire avec ce qu'il a.
Aller chercher Carlos Bianchi ou Dominique Rocheteau, ils sont un peu vieux maintenant.
Ils sont
pour les historiques du PSG.
Ah ouais.
Ils sont même plus sur une jambe. Là, vaut mieux mettre Mbappé, je pense.
Le vilain.
Non, mais ils tiennent sur leurs deux jambes, mais elles sont moins vives.
Ouais.
Là, pour le coup, c'est Icardi qui va être
titulaire en pointe.
Titulaire
y a pas
en
choix,
pointe, hein. Et qui va avoir des responsabilités. Après, Di Maria et Sarabia, moi, je trouve ça intéressant. Di Maria en forme.
Ah,
Sarabia,
moi, j'adore Henry.
Relève la tête.
Angel.
Ah, j'adore.
Ah ouais. Ah bah contre le Real, son ancien club, on peut dire qu'il leur a pas fait de cadeau, hein.
Il est bon.
Ah, il a été très très bon.
Rares maintenant qui devient bon, on va dire.
Qu'est-ce que t'en penses, Romain? Tu serais à la place de Tuchel ou tu serais responsable du staff médical du PSG? C'est tout le mal qu'on te souhaite un jour. D'ailleurs, tu pourrais nous avoir des places au cas où, ce sera parfait. Ouais, je dis rien. Et est-ce que tu aurais pas mis boule et tu pousserais...
Moi, je veux bien.
Et tu pousserais le même coup de gueule en disant « T'as vu le nombre de joueurs absents que j'ai ? T'as vu, pour faire l'attaque, c'est simple, il n'a pas le choix. »
C'est de la communication aussi, mais sur le fond, il a totalement raison. C'est-à-dire que comment tu veux aligner une équipe quand tu joues tous les trois jours, quand tu essaies d'avoir un 11 type et que voilà, c'est impossible de les mettre tous les trois jours, donc t'es obligé de faire tourner, les autres sont en méforme, certains vont être psychologiquement pas forcément au mieux, donc il y a ça aussi qui joue, donc c'est vraiment pas simple, je pense. Et il a peut-être peur pour la Ligue des Champions, il a peut-être peur
t'imagines que Cavani ou Di Maria aient un pépin
Matador.
Ouais, mais t'imagines qu'ils aient un pépin.
Ah bah on est mal barré, hein.
Ah bah tu mets Cavani et Mbappé sur une jambe.
De toute façon, pour moi, on est mal barré.
Pour aller à Bruges, c'est jouable.
Ça va.
Oui, mais
le Real
pour le final. Ou bah déjà, non, mais le Real, ouais.
Finalement, tiens, on va pas poser la question à notre ostéopathe. Vous allez réagir. Finalement, c'est pas mieux d'avoir les pépins en début de saison, parce que les deux dernières saisons, c'est en février que Neymar s'est cassé. Imaginons que là, ils reviennent en pleine bourre à partir de février. Février, c'est bizarrement le premier tour aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Il ne fait pas exprès, mais c'est exactement ça qu'il faudrait faire, c'est-à-dire arriver à en mettre un, à l'user pour qu'il ait deux mois pour s'en remettre. C'est le meilleur moyen. Mais souvent, les préparations physiques sont faites pour qu'ils soient dans leur forme maximale en février-mars.
Mais c'est ça.
J'ai remarqué un truc, moi, par hasard. J'ai remarqué qu'il était toujours absent quand c'était l'anniversaire de sa sœur. Est-ce que c'est normal?
Oui.
C'est médical, ça, ou pas? On a un doute.
C'est purement médical, c'est le secret professionnel.
Ça fait quand même deux fois.
Oui, j'espère que ta sœur s'appelle pas Marlène pour rappeler un film célèbre.
Non, mais effectivement, il a besoin. Je pense que il fait sa gestion, et je pense que les autres n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se plier à son calendrier. Et puis il rentre, il marque. Donc entre guillemets, je serais dans le staff médical, je lui taperais sur les doigts.
La petite princesse.
Mais l'entraîneur, il peut rien dire. Malheureusement, il arrive, il met des buts. C'est dommage qu'il soit pas sur le terrain tout le temps. C'est ce que j'ai souvent dit. Je le comparais avec le combat Messi-Ronaldo. Quoi qu'on en dise, ils sont un cran au-dessus dans le professionnalisme, pas dans le talent. On parle pas de. Mais médicalement, Ronaldo est irréprochable.
Ah, puis t'as des joueurs aussi qui ont lâché Koumoun, excuse-moi, mais tu prends Johan Gourcuff. Tout allait bien quand il était à Bordeaux, il est parti à Lyon, là ça a été le cataclysme. Oui, il y avait aussi. Oui.
C'est ce que j'allais dire. Le mental joue énormément à haut niveau, et c'est. Si on se sent bien, il vaut mieux que Neymar aille à l'anniversaire.
Ouais.
Exactement. Il vaut mieux le laisser aller à l'anniversaire de sa sœur et qu'il se rétablisse un petit peu à la vitesse qu'il veut, mais qu'au moins il soit performant, plutôt que de vouloir le brimer et l'empêcher d'y aller. Ouais.
Attends, Emmanuel
veut
réagir, et pas pour parler de l'anniversaire de sa sœur.
Oui, non, parce que ça, pour le coup, ça va le travailler, la résistance au long courrier, c'est pas plus mal. Mais oui, donc cette théorie de la blessure, elle marche s'il se reblesse pas en février. Parce que là, s'il se reblesse en février, c'est une saison blanche de chez blanche. Donc on lui souhaite ça.
Moi, je me demandais s'il ne pas son équipe nationale au détriment de la nôtre, en fait.
Vraie question, mais on comprend mieux
peut-être. 3 blessures en 1 an avec le Brésil.
Quand la France s'est qualifiée pour les JO de Tokyo, et où Mbappé a dit « Moi, je rêve de faire les Jeux Olympiques », vous avez vu la réaction du Paris Saint-Germain, c'était grosso modo « Tu vas déjà jouer l'Euro en juin-juillet, tu vas pas aller faire les Jeux Olympiques
c'est ça, août-septembre.
Ouais. Donc, tu vas pas aller faire les Jeux Olympiques après. Ça, c'est quand même assez logique. On a parlé, allez, quand même, Club Bruges-PSG, le Paris Saint-Germain va aller s'imposer en Belgique malgré ses forfaits. Parce que malgré ses forfaits, ils ont quand même tapé le Real et Galatasaray. Hein.
Oui.
Oui, tu penses, Véronique?
Moi, je crois que oui aussi.
Romain?
Oui.
Alors, les autres matchs, on va en parler de nos autres clubs. Benfica-Lyon. Lyon avec un nouvel entraîneur, Rudy Garcia. Vous y croyez, un bon résultat à Benfica, tiens, Emmanuel?
Benfica, c'est pas le Benfica d'il y a quelques années. Hein.
C'est sûr.
Ils sont en déclin. Moi, je pense que Lyon peut tout à fait faire un résultat là-bas.
Ah bah, comme ils ont fait du côté de Leipzig.
Du côté de Leipzig, ouais, ils sont plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile en Ligue des Champions.
Déjà la saison dernière.
Donc, moi, je peux voir un bon résultat à Benfica, c'est tout à fait possible.
Tu vois bien, non, moyennement. Je te sens pas très pro-lyonnaise.
Moi, je suis assez partagée. Mais ce que je me rends compte, c'est que surtout. ce que je me rends compte, par exemple, on parlait du Real, c'est que le Real, quand on regarde, ils sont toujours toujours en douceur au départ.
C'est ça. Les phases de poule, ils sont tranquilles.
Mais pour finir comme des fous, quoi.
C'est ça.
Et,
sauf l'an dernier.
Et je me demande... Oui. Oui. Et je, non, bah parce que j'ai un client qui est fan du Real et quand ils perdent, c'est juste dramatique. Quoi.
Ah oui.
Je mange tout le week-end.
Il mange deux côtes de bœuf pour se remonter
puis c'est
le moral.
Un espagnol et c'est l'enfer, quoi. Ah, donc moi, je prie toujours pour que le Real gagne. Et quand je regarde les matchs, on s'envoie des textos.
Pour le garder comme client, tu lui dis Visca Barça, il va être vachement fou.
Et donc, je remarque que finalement, les clubs qui sont moins
Ils démarrent plus fort en poule et après
oui,
ils se plantent.
C'est ça. C'est ça, je pense que c'est tactique.
Ah ben, c'est possible aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Benfica-Lyon.
Benfica, je vois Lyon effectivement à l'extérieur faire quelque chose,
oui.
Surtout avec l'arrivée du nouvel entraîneur. Mais c'est vrai que dans les grosses équipes, pour revenir sur, je suis assez monomaniaque des préparations physiques, mais les grosses équipes qui ont des profondeurs de banc vont essayer, c'est un jeu dangereux, mais de s'économiser en quelque ouais, sorte, d'y aller en douceur. Pour justement éviter de se blesser et finir au moment où il faut, enfin finir fort.
Juste,
je pense que c'est quand on est une grosse équipe, c'est ce qu'on peut arriver à faire, mais c'est compliqué.
Je pense que la limite par rapport au Real et au fait de monter en puissance, c'est qu'au final, sur les 11 dernières années, ils ont gagné deux fois la Liga, 8 pour le Barça, 1 pour l'Atlético. Oui. Donc c'est bien en Ligue des Champions, c'est problématique en championnat, cette stratégie.
Ouais. Merci. Merci beaucoup. On a terminé pour le football. Blessure des footballeurs, le calendrier est-il trop chargé? Eh bien, c'est encore un peu baissé. Vous êtes 43% à penser qu'ils ne travaillent pas assez. La RTT pour les footeux, c'est pas pour tout de suite. Et maintenant, on va parler rugby. Oui, dimanche sur Sud Radio, le 15 de France va-t-il battre le Pays de Galles? Et pour le moment, vous n'êtes que 38% à penser que oui. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et après le ballon ovale, non, le ballon d'or, c'est pour la fin de l'année. Et on est à jour J-2 d'un match dont on connaît la chanson, puisqu'il s'agit de France-Galles. Quart de finale de Coupe du Monde où le 15 au coq va s'affronter au 15 au poireau. Et on espère d'ailleurs que le coq va dévorer le poireau. On a toujours avec nous Véronique Lenglet pour sa première, Emmanuel Galasso et Jim Gollard, membre du comité directeur du Stade français, qui nous a rejoint. Et bien sûr, Philippe Spanghero, notre consultant, comme tous les vendredis. Salut Philippe.
Salut à tous.
Salut.
Dis-nous, à 48 heures du coup d'envoi, t'es dans quel état d'esprit ?
Bah, je suis excité.
Ah, on est content d'apprendre que Philippe est excité.
Parlons
c'est bien.
Ok, j'allais y venir. Non, mais c'est, on est excité et impatient parce que on a hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, côté français, on est un peu dans le flou. On en a parlé plusieurs fois ces dernières semaines, mais on manque beaucoup de matchs références et de victoires références ces dernières années. On peut considérer que le match d'ouverture contre l'Argentine en est une, mais honnêtement, on a rencontré une équipe d'Argentine qui est pas la meilleure qu'on ait connue ces dernières années. À ce test qu'on attendait tous contre l'Angleterre pour voir du point de vue du staff quelle était réellement l'équipe type et puis pour pouvoir se jauger contre une équipe prétendante au titre.
Si tu me permets un très mauvais jeu de mots, Philippe, c'est un match qui a été tiphonné.
Voilà, match qui a été tiphonné, donc une occasion gâchée de s'étalonner contre les meilleurs, de se roder, de trouver des automatismes. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit on peut se dire que c'est bien dans une compétition comme ça, qui a été très longue dans la préparation, etc., d'avoir pu avoir une semaine de plus pour régénérer les organismes, parce que on avait quelques joueurs importants. Qui aurait pu y laisser des plumes, comme le petit Dupont, comme Damien Penaud. Qui seront titulaires finalement. Donc c'est bien parce qu'on les a préservés et puis ils seront a priori à 100% de leurs moyens pour affronter les Gallois. Mais on peut aussi se dire qu'on va cruellement manquer de rythme pour un match de ce niveau-là parce que depuis le match contre l'Argentine, on a d'abord fait beaucoup tourner. On n'a pas eu l'équipe type et puis on a joué contre les Tonga et les États-Unis. Donc
qui sont pas des cadors du rugby mondial.
Non, qui permettent pas de
s'étalonner.
Ouais, et puis le dernier match qu'on a en tête, c'est contre les Tonga où on a quand même de très très grosses lacunes sur cette dernière confrontation.
Ça, on est bien d'accord. Jim, Est-ce que tu es excité, tiens ? Question très intime, comme Philippe Spanghero.
Énormément, comme disait Emmanuel, on va passer au rugby maintenant. Je salue Philippe pour sa brillante analyse. Non, moi je suis assez confiant pour l'équipe de France. Si on prend en référence...
Bah, ça nous rappelle de bons souvenirs en 2011. Hein, c'était en demi-finale qu'on avait battu, enfin à 15 contre 14, mais on avait gagné.
Et si on reprend le dernier match en référence, qui était le match des Six Nations ? L'équipe de France gagnait à la mi-temps 16-0.
Oui.
Bon, on a quand même perdu 24-19 à la fin.
C'est ce qui était un exploit.
Ce qui est le plus inquiétant, c'est toujours les secondes mi-temps pour l'équipe de France. Mais moi, je vois la composition, je suis assez confiant.
On va parler de la composition après. Est-ce que toi, t'es excité aussi, mon cher Emmanuel ? On demandera à Véronique
non, vous
après.
Non, pas.
C'est la réponse qu'on attend. Oui,
si
alors...
Si elle dit non, c'est très vexant.
Si elle dit non, c'est qu'on parlera rugby. Si on prend les dernières confrontations, on les a battues qu'une seule fois.
Oui.
Mais globalement, quand même, on a réussi à tenir la cadence face à eux. Il y a une fois en 2014 où on avait pris 27-6, où ça avait été plus compliqué. Mais globalement, on tient le coup. Je pense que la première mi-temps, Philippe parlait de rythme, et je suis totalement d'accord. Il va falloir être dans le rythme dès le début, parce qu'ils vont jouer sur un faux rythme. Et si on tombe sur leur rythme à eux, ce sera perdu.
T'es excité alors, Véronique, mais on parle que de rugby, hein, t'inquiète pas.
Oui, mais en général, je déborde. Moi, je vais vous dire un truc. Quand je regarde le rugby, qui soit un rugby européen, je trouve qu'on n'est pas sur les mêmes matchs que quand on est hémisphère sud.
Ça, c'est clair. Bon. Tu vois le match Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, premier match de poule au premier tour.
On a l'impression c'était la poule B, c'était un autre monde.
Ah oui, ça, on était d'accord.
Maintenant, quand je regarde effectivement les matchs précédents, on peut se dire aussi que ça permet de nous mettre en jambes. Effectivement, on n'est pas sur le même niveau non plus, forcément. Mais on peut se dire qu'ils n'ont pas joué depuis un certain temps, qu'on peut avoir de l'espoir, que les titulaires sont les bons. Mmh. Et il faut être positif, quoi.
Alors justement, on va parler de la compo. Elle est tombée en direct dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus, ce matin donc. Alors, derrière, Médard en trois quarts, Penaud, Vakatawa, Ficou, Huget, Charnière, Dupont, Tamac, troisième ligne, Olivon, Aldrit, Loret, seconde ligne, Vahamaina, Leroux, pilier, Poirot, Slimani, étalonneur et capitaine, Guillaume Guirado. On va commencer. Est-ce que pour toi, la non-titularisation de Camille Chat n'est pas surprenante, parce qu'on avait trouvé Camille Chat très bon contre les Tonga, mon cher Philippe?
Non, je ne suis pas surpris, parce qu'on reste dans la ligne... De ce qui a été proposé pour le match contre l'Argentine. Guillaume Guirado est le capitaine indiscutable. Je crois que il fait plus l'unanimité même parmi les joueurs que parmi le staff, de ce que j'ai cru en comprendre. Donc, il est un baromètre important. On en a parlé plusieurs fois, mais cette équipe, elle manque de leader. Il en fait partie. Donc, il a été économisé depuis maintenant 3 semaines. Donc pour moi, c'est absolument pas une surprise, même si Kamicha a fait des très bonnes rentrées et qu'il est un impact player évident dont on manque en équipe de France.
Il rentrera en cours de match, hein, certainement. Hein.
Il rentrera certainement en cours de match. Et puis c'est vrai qu'il a encore, malgré tout, quelques lacunes au lancer qui, dans ce type de match où la moindre faute se fait cache, mérite d'être évité. Donc pour tout ça... non, c'est pas du tout une surprise pour moi.
Jim,
la surprise pour moi, juste pour finir, si on parle de la composition, c'est peut-être la titularisation de Leroux, donc
oui,
qui se comprend
à la place de Gabriel,
qui se comprend par l'apport de densité, parce qu'on sait que les Gallois sont très denses et qu'ils vont nous imposer un gros défi physique. Mais malgré tout, moi, j'aurais même pas mis Gabriel, j'aurais mis Ituria, qui a toujours donné très grande
satisfaction
à l'équipe de France. Et je crois que pour gagner des matchs de ce niveau, il faut être ambitieux dans le jeu et que dans ce registre-là, Ituria...
Mais j'ai la compo sous les yeux. Plus. Philippe, Ituria n'est même pas remplaçant. Hein.
Je sais, c'est une surprise pour moi.
Ah oui, ça c'est une grosse surprise.
Parce que Ituria, il est soit titulaire, soit pas dans le groupe. Oui, parce qu'après, comme il couvre... Non, mais c'est vrai, parce que comme il couvre 2 postes, c'est un casse-tête sinon.
Ah oui, ça, dans ce domaine, t'as raison. Qu'est-ce que tu en penses, la titularisation de Guirado à la place de Chat ?
Non, Guirado, il est tout à fait... Il va dire son rôle dans cette composition. Aujourd'hui, on rentre dans une compétition où on a besoin de seniors. Guirado va prendre l'équipe dans les vestiaires, sur le match. et les gens sont rassurés autour de lui, ce qui est moins le cas avec Charles, hein, qui n'est pas capitaine.
Oui, mais qui a fait quand même une très belle perf contre les Tonga, notamment.
Ça ne suffit pas. Quand on entend Gann comme ça, ça ne va pas suffire.
Et justement, on en parlait. Pour toi, c'est une surprise, la titularisation de Leroux à la place de Gabriac, par exemple?
Moi, j'aime bien Leroux. J'aime bien Leroux. En revanche, on parle de surprise. Moi, je trouve que Aldrit n'a pas super fait de grands matchs jusqu'à maintenant.
Oui, il est maintenu.
Il est maintenu. Sur un match comme celui-ci, j'aurais bien vu un Picamol, par exemple.
Ouais, Louis Picamol, qui lui a de l'expérience, parce qu'il a quand même déjà, de mémoire, deux Coupes du Monde au compteur.
Là, tu fais Guirado, Picamol dans l'axe, avec un Médard derrière, avec une charnière qui tient la route. Ça aurait fait le job.
On reste sur les avants. T'as été surpris par la non-titularisation de Chat et par celle de la non-titularisation de Gabriac?
Je pense que, pour ce qui est de l'absence de Chat et la présence de Guirado, on arrive à un moment de la compétition où, en effet, le leadership au sein du groupe et du vestiaire et l'impact qu'on a sur les coéquipiers, c'est au moins autant important que ce qu'on a fait jusqu'à présent sur le plan sportif. Donc, Camille Chat, il n'y a rien à lui reprocher, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est sur ce genre de match où ça va peut-être pas se jouer à grand chose.
C'est le petit supplément d'âme de l'expérience.
C'est le supplément d'âme, ouais, complètement, et ça peut faire la différence, donc c'est logique.
Ce qui est important, c'est aussi la cohésion, c'est l'esprit d'équipe. Enfin, je vais revenir au slogan de la Société Générale, mais ce qui peut faire la différence aussi, c'est la force de l'équipe.
Une équipe peut se mettre chiffon et arriver à avoir et à renverser en étant parfois moins forte qu'une autre équipe. Mmh.
Ce qui peut être le cas avec un Camille Chat, qui est un super joueur,
oui,
mais qui déborde d'énergie.
Ouais.
Et qui peut mettre un peu le wild dans le vestiaire.
Et les supporters, parce que ce qui est important aussi, c'est que je crois comprendre, peut-être que je me trompe, que les Japonais nous apprécient aussi beaucoup.
Oui,
ils
préfèrent nous jouer nous que les Gallois, à mon avis, c'est pour ça.
Pour de mauvaises raisons.
Parce que là, ce serait la demi-finale au cas où
sur passe. C'est important aussi, le 13e homme.
Ça, c'est clair. Si les Japonais nous supportent, c'est très bien. Le 16e, oui. Oui, le 13e, c'est même pas du foot.
Non, je sais pas.
Du rugby à 13, t'aurais dit le 14e homme.
Non, rugby à 7.
Alors, le 8e homme. Justement, Philippe, cette charnière Dupont-Ntamack, on en a rêvé. Le stade de l'équipe de France l'a fait. Alors, déjà, Dupont à la mêlée, oui.
Ah oui, un grand oui, mais il n'y avait pas de vrai sujet le concernant avant la Coupe du Monde. La surprise, ça a quand même été Ntamack.
Oui, mais contre l'Angleterre, c'était Machenot qui était titularisé s'il n'y avait pas eu de typhon. Hein.
Oui, mais pour moi, c'était pour préserver Dupont. C'était pas un choix sportif. Je veux dire que dans le staff de l'équipe de France, je pense qu'il n'y a aucun sujet quand il s'agit de mettre le 9 titulaire pour un match clé. On l'a vu, le match référence pour la composition, ça a été l'Argentine.
C'était cette charnière.
Voilà, et on retrouvait cette composition contre l'Angleterre où il fallait avoir l'équipe type pour justement essayer de trouver ces automatismes face à une très grosse nation. Donc il n'y a pas de surprise avec Dupont. On en a eu une au départ avec Ntamack quand il a été aligné à la place de Camille Lopez contre l'Argentine, mais depuis, le signal était donné, c'était Ntamack le numéro 1. Il a en plus pas déçu du tout par la suite de la compétition, donc la charnière est assurée du soutien du staff et aujourd'hui il n'y a pas de débat par rapport à ces deux joueurs.
Jim,
Lopez a fait un très très bon match contre les USA. Moi, je pense que
il a fait des passes au pied là sur chaque essai. Pratiquement, il a mis une passe au pied gagnante.
Homme du match.
Oui.
Je pense qu'en matière de coaching, sur un gros match comme dimanche, comme le Pays de Galles, je pense qu'en matière de coaching, il faut qu'il rentre plus tôt que lorsqu'il est rentré contre l'Argentine.
Oui, ça c'est clair.
Parce qu'il a fait il a fait la différence. Il ne faut pas oublier que quand il est rentré,
c'est lui qui met le drop gagnant.
L'équipe de France perdait.
Oui.
Hein, donc il a fait la différence.
Et d'entrée de jeu, ce qu'on appelle coaching gagnant.
Je pense que le coaching de Galtier est très bon en faisant entrer Lopez après Romain Ntamack. Mais je pense que sur un match comme les Gallois, il faut le faire rentrer un tout petit peu avant. Et je pense que c'est une...
Ouais, ça peut le déstabiliser, ça peut casser... C'est le plus, je pense, que le plus dangereux avec le Pays de Galles, c'est le rythme qui nous impose. Et un mec comme Camille Lopez, c'est vrai qu'il peut perturber ce rythme en variant le jeu, en apportant d'autres choses que Ntamack peut-être n'apporte pas par son jeu. Et en effet, en le faisant rentrer plus tôt, ça nous met une cartouche en plus.
Et puis il y a quand même une chose, quand on regarde les Toulousains, désolé, t'es dirigeant du Stade Français, il n'y a pas de Toulousains dans le pack. Par contre, les lignes arrières, ça manque pas de Toulousains. Hein. Du demi, de la charnière jusqu'à l'arrière, il y en a quand même beaucoup, hein, Philippe.
Oui, il y en a beaucoup, mais bon.
Mais donc, il y a des automatismes.
Oui, il y a des automatismes entre eux, mais le problème, c'est que, oui, il y a des automatismes entre joueurs, et ils se connaissent, donc sur le terrain, dans les attitudes, etc., on gagne ces quelques dixièmes de secondes qui font la différence pour être au soutien, de donner les bons ballons, mais malgré tout, les joueurs, ils ont des automatismes dans des systèmes de jeu. Et le système de jeu du Stade Toulousain n'est pas forcément celui de l'équipe de France. Donc ça doit quand même être relativisé, tout ça.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h passé de 43 minutes. Eh bien, désolé, mais vous n'êtes vraiment pas optimiste. Vous n'êtes que 37% à penser que les coqs vont manger des poireaux. Ce sera à partir de 9h15 sur Sud Radio dimanche, mais on fera l'avant-match dès après les infos de 9h. Et puis, on a des commentaires. Tiens, je vous les donne. Faut y croire, sinon autant rentrer en France. C'est Patrice qui nous dit ça. Oui, je l'espère, c'est Paysan 47. Et on a Christophe qui nous dit « J'ai mis oui, mais je suis très partagé. J'ai soutenu et assisté à tous les matchs de l'équipe de France au Stade de France pendant des années. Et je ne vois pas beaucoup de progrès. » Ça, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de progrès. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et le vendredi, c'est rugby, oui, à moins de 48 heures du coup d'envoi de France-Galles, quart de finale de la Coupe du Monde au Japon. Et on espère que nos tricolores vont arriver à se qualifier. On va terminer rapidement pour ce match, puis on va parler également des autres quarts de finale. On va parler encore un peu de ce match. Philippe Spanghero, tu as vu la composition des Gallois. Bigger, qui est maintenu quand même en charnière après avoir eu deux commotions, ça t'inspire quoi ?
Ben, ça m'inspire que c'est un élément clé du dispositif gallois. On a vu un peu une relation similaire à un joueur avec l'Irlande, avec Sexton, où on préserve au maximum le joueur, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions, mais on essaie de le faire revenir très vite de retour de blessure parce que c'est des joueurs qui sont indispensables au dispositif. Donc c'est peut-être un élément de réponse du jeu français. Il va falloir aller le chercher, malheureusement, beaucoup, pour essayer de le déstabiliser s'il est un peu fragilisé parce que encore une fois, les Gallois, sans lui, ont un jeu qui est moins fluide.
Je me rappelle, lors d'un quart de finale de Coupe du Monde France-Angleterre au Parc des Princes en 91, tu t'en rappelles peut-être, je crois que c'était Serge Blanco qui s'était pris un tampon monstrueux d'entrée par un Anglais et qui avait été sonné pour le reste du match. Je sais pas, tiens, Jim, un contrat sur Bigard, ça pourrait être... Ouais, t'étais pas né, ouais, bien sûr. Tu t'en rappelles ou pas de ce match ?
Non.
Très mauvais souvenir.
Je vais te reposer une biton déjà.
Pas né, mais en avance.
Est-ce que finalement, mettre un gros caramel à Bigard d'entrée et qu'on dise pas que je suis anti-sportif, les anglo-saxons ne se gênent pas pour nous en mettre, la preuve par 91, est-ce que ce serait pas peut-être une bonne opération ?
Je pense que c'est pas exclu.
C'est Davis Bigard, la charnière classique.
Je pense que ce n'est pas du tout exclu, en sachant que Bigard, déjà, il est assez gaillard, hein, c'est pas un mauvais genou, mais il est quand même assez costaud. Mais il est fragilisé par ses récentes commotions.
Deux.
Mais pour être tout à fait clair, un Loré bien lancé, un Olivon bien lancé, il va charger à un moment donné, ça c'est clair.
Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel ?
C'est une solution. C'est pas glorieux.
Les Anglais ne sont pas gênés pour le faire contre nous.
Oui.
Je peux te rappeler aussi comment Mako s'était démoli Parra en finale en 2011.
Oui.
D'accord ?
Non, mais oui.
C'est vrai qu'eux, ils sont anglo-saxons, donc les arbitres les sanctionnent moins. C'est vrai aussi.
Ouais. Non, mais.
Et qu'on m'accuse pas de chauvinisme, tout le monde sait que c'est vrai.
Non, mais t'as raison. Après, c'est une stratégie. Tout ne peut pas reposer sur ça, mais ça peut être une option, toujours dans l'optique de déstabiliser, et de casser leur stratégie. Oui, ça peut être une option.
Dernière question sur ce match. Ce match, il va se jouer où ? Et votre pronostic ? Tiens, vas-y, Philippe.
Ah ben, je ne vais pas être très original. Il va se jouer où ? Il va se jouer sur le défi physique. Et de plus en plus, alors, à l'époque, on parlait d'être fort sur les fondamentaux, les touches, les mêlées. Mais de plus en plus, il y a la zone des rucks qui est un élément clé du dispositif où il faut être très peu pénalisé. Et à la fois, il faut être très réactif et très efficace sur les zones de ruck où les Gallois sont très forts. Donc il va falloir faire la même entame qu'on a su faire sur le dernier match du tournoi contre eux, en essayant de maintenir le même niveau de jeu sur la deuxième période. Ce dernier match dont on parle souvent contre les Gallois, il est paradoxal parce que le résultat au final est en défaveur de l'équipe de France, mais je crois qu'il faut quand même construire dessus parce que l'équipe de France avait vraiment trouvé des clés. Ils avaient vraiment secoué en première période et puis les Gallois étaient, étaient quand même au top de leur forme et au meilleur de leur niveau à ce moment-là. Donc, on a su trouver les clés. Il faut repartir de ce match, mais comprendre comment maintenir un rythme et une densité physique qui met l'adversaire sous pression pendant plus de 40 minutes.
On va dire que je suis monomaniaque. Tu ne nous as pas donné ton prono, Philippe.
Mon prono, je suis patriote ou je suis...
réaliste.
Non, alors honnêtement, moi je suis patriote, mais à la fois je suis pour on va dire la justice, et je trouve que les Gallois ont une génération magnifique. Ils survolent le rugby européen, avec les Irlandais ces dernières saisons, mais grosso modo, ils ont une très belle génération, ils ont dominé les Six Nations ces 3-4 dernières années.
Donc tu vois Galles.
Je vois le pays de Galles avec un match accroché, avec une victoire serrée de 6 points.
Ah oui.
Mais je vois le pays de Galles.
Justement, on va dire que je suis monomaniaque. L'arbitre, ce sera Jaco Pyper, l'arbitre sud-africain. Jim, est-ce que tu ne trouves pas que Pyper, c'est quand même un arbitre très, très tatillon ?
C'est très bien pour ce type de match, je pense.
Oh, mais il est quand même très tatillon, franchement.
Jusqu'au moment donné où ça va se rentrer, pour être poli, ça va se rentrer dans la gueule, pour être poli. Ça va se jouer devant. Des mecs comme Leroux, ils vont faire du bien. Des mecs comme Leroux, Guirado, ça va
amener. Ça va, et ton prono ?
Victoire France 25-22.
Ouf ! Oula. Ton prono, Véronique ?
Bah, moi, je suis...
Supporte pas, t'es patriote.
Non, c'est pas ça, mais non, je sais, enfin, c'est pas que je sais, mais dans mon ADN, je me dis qu'on peut pas gagner.
Oui.
Mais comme je suis.
Mais comme t'es comme Philippe Panguero,
ouais.
Tu vas dire qu'on va perdre ou tu vas dire qu'on va gagner comme Jim ?
Ouais, je vais dire qu'on va gagner, mais j'y crois pas du tout et je prends même qu'on va se prendre une raclée.
Ah ouais.
Mais bon.
Et toi, Emmanuel ?
Changement radical.
Ouais.
Et toi, Emmanuel ?
Moi, j'avais plutôt des pronostics patriotiques et optimistes jusqu'à présent. Là, je pense qu'on va perdre, j'espère qu'on va faire une grosse première mi-temps, mais sur la longueur, ça me paraît quand même
très bon.
Moi, je me dis que
c'est le bon début, en fait.
On a peut-être les dieux du rugby avec nous et qu'une équipe peut naître dimanche. Allez, je vais dire, on va peut-être gagner de 2 tout petits points. Et on tremblera comme contre les Tonga et contre l'Argentine, mon cher Philippe, tu seras avec nous.
Alléluia.
On va parler des autres matchs, parce que ça commence dès demain. Nouvelle-Zélande-Irlande. Je ne sais pas, Philippe, mais mon petit doigt me dit que je verrais bien les Irlandais taper. Je verrais bien le trèfle manger la fougère, tiens.
Ben, écoute, j'aurais été plutôt d'accord avec toi avant cette Coupe du Monde, parce qu'on a senti un peu de friture sur la ligne côté néo-zélandais. Avant le rappel au chevet de cette équipe de Dan Carter, là je les ai trouvés quand même maîtres de leur sujet. J'ai trouvé les Irlandais fébriles contre les Japonais qui ont très bien géré le match, mais qui malgré tout n'ont pas trouvé les solutions. Donc je vois pas les Blacks inquiétés par l'Irlande sur ce match.
Et toi, t'en penses quoi, Jim ?
Moi, je vais être un peu vulgaire, mais contrairement à ce que pense Philippe, parce que je respecte énormément ce qu'il dit, je pense que l'Irlande va taper les Blacks, moi, par contre.
Ah oui ?
Ouais.
Moi, j'ai un pressentiment que l'Irlande va taper les Blacks, je sais pas pourquoi.
Parce qu'ils ont pris, la fessée, ils se sont fait, entre guillemets...
par les Japonais.
Ridiculisés par les Japonais. Et je crains qu'ils ne veulent pas partir par la petite porte.
Qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu le sens, ce Irlande-Black ?
Alors, j'ai du mal à être aussi catégorique que vous d'un côté comme de l'autre. Sur la tendance avant la Coupe du Monde, c'était plutôt l'Irlande.
Ouais,
mais comme dit Philippe, c'est vrai que depuis le début de la Coupe du Monde, bon, la Nouvelle-Zélande, ils sont là dans les gros rendez-vous. Je ne me risquerais pas un pronostic sur ce match.
Et toi, tu te risques un pronostic, Véronique ?
C'est vrai qu'avec les Blacks, on a beaucoup de mal parce que ça peut être le pire comme le meilleur. Moi, j'espère l'Irlande.
Moi aussi, j'espère l'Irlande.
Mais mon avis est très partagé.
Et on va passer à l'autre match. On va les faire tous de toute façon. Philippe, Angleterre-Australie, est-ce que tu vois la rose piquer le kangourou, le wallaby ?
Là, pour le coup, oui. Là, je vois plutôt les Anglais passer. Même si j'ai trouvé les Australiens... Assez serein contre les Gallois qui a fait partie des grands matchs de cette Coupe du Monde.
Mais ils ont perdu.
Ils ont perdu, mais j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qui est quand même surprenant, c'est que les grandes équipes européennes, elles arrivent quand même à se mettre régulièrement au niveau de ce que proposent les grandes nations du Sud en termes de jeu. Donc je trouve les Anglais très très costauds. Je pense que devant, eux pour le coup, ils ont deux ou trois joueurs clés qui sont vraiment des match winners et Kapal Australie. Et je vois l'Angleterre passer.
Jim,
je vais suivre Philippe sur ce coup.
Moi aussi, je vois l'Angleterre passer. Tu vois l'Angleterre ou l'Australie ?
Moi, j'irais l'Australie, mais bon.
Et toi, Emmanuel ?
L'Angleterre, pour le coup. Là.
Et alors, le dernier match, ce serait là pour être l'adversaire de la France, Japon-Afrique du Sud. Est-ce que tu crois, mon cher Philippe, que les Nippons peuvent continuer à nous faire rêver ?
Les outsiders.
Alors, honnêtement, je trouvais ça exceptionnel pour l'histoire.
Ouais. Ah bah surtout si on se qualifiait, ce serait bien, parce que si on prend les pronostics, tu imagines, Irlande, Angleterre et France-Japon, t'as pas une équipe de l'hémisphère sud en demi-finale.
Ce serait bien.
Ouais, non, mais après, bon, les Sudaf ont encore en tête le traumatisme de 2015 dont on
où ils ont perdu.
Largement parlé. Donc ils vont avoir à cœur de pas se faire prendre deux fois. Je trouve que les Japonais, d'un point de vue de la stratégie, sont exceptionnels.
Ouais.
C'est-à-dire que collectivement, ce qu'ils proposent, c'est d'une efficacité redoutable. Mais honnêtement, c'est vrai que ils ont marché sur l'eau sur ce match contre l'Écosse. Enfin, j'ai deux ou trois actions particulières en tête où tout leur sourit, le rebond sur la passe au pied pour laisser. L'ailier qui arrache le ballon, qui dégueule et qui rattrape avant de faire un avant pour aller marquer entre les poteaux.
C'est ça. Enfin,
ouais, mais c'est important quand même. Hein, les
deux rugby.
C'est très important, mais malgré tout, sur la densité physique, là pour le coup.
Là les Sudaf sont.
Là les Sudaf, je pense qu'ils vont, ils vont fermer le jeu au départ pour les fatiguer. Ils mettent beaucoup d'énergie, ils sont très rigoureux, ils font peu de fautes. Mais par exemple, j'ai en tête la deuxième ligne japonaise qui est, je trouve, assez mobile dans le jeu, mais qui manque de densité physique. Là, je pense qu'il y a quand même une division d'écart et que
sur ce
secteur-là, ils vont pas exister.
Jim, tu vois les box, toi aussi, arrive à la fin de l'émission.
Bien sûr, je suis Philippe là-dessus et je crains que l'aventure japonaise s'arrête ce week-end.
Moi aussi,
week-end.
Mais je pense qu'ils vont aller tous au temple. Ils vont gagner.
Au Shinto. Non. Tu vois les box gagner. Et toi, oui, Emmanuel, tu vois les box gagner.
Malheureusement,
sans doute la fin de la belle histoire japonaise.
Ouais, moi, je serais pour les Japonais, mais
moi aussi, je suis pour.
Je pense que les box vont gagner, mais en France-Japon, ce serait parfait. Merci à tous les quatre, ça a bougé. Vous êtes désormais 38%. 38% à penser que la France peut battre les Blacks. Dans quelques instants, c'est le demi de mêlée de Sud Radio, Yvan Cujus dans Love Music qui reçoit les Bébés Brunes et Dave.
Bien.